Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Ils veulent pas de moi, je leur fais une démo, ils veulent bien de moi. En gros, ils m'ont dit non 4 fois. Pour moi, la vie, c'est un jeu de Mario, tu vois. Et donc, t'as des trous, des obstacles, des machins et tout. Et donc, si t'es pas tombé dans le trou, tu peux pas savoir qu'il existe peut-être. Donc, il faut faire ça. Vous cassez pas la tête sur le rapport que les autres font avec ce que vous faites. Parce que, d'une part, c'est votre vie. Donc, il y a que vous qui êtes impliqué, en fait. Hein, les autres sont figurants de ce que vous ressentez intérieurement. Et d'autre part, vraiment, dans le temps, ils vont pas s'en souvenir.
Quand Fabien Olicard entend le mot « échec », il n'entend pas « non », il entend « convainc-moi ». Fabien Olicard, c'est un génie du cerveau qui fait de la vie un jeu de Mario. Partant du principe que si l'on n'échoue pas, on n'apprend pas, il est devenu copain avec l'échec. Depuis très jeune, donc, il brise les codes, tente des choses et ne garde qu'une seule chose en tête, faire ce qui l'éclate. De cette philosophie, il enchaîne les expériences sans se soucier de ce qui adviendra. Il laisse les plans de route trop serrés de côté et préfère rester ouvert aux opportunités qui surprennent. Alors il tente, il jongle d'un milieu à l'autre sans anticiper ce que sera demain. Il repousse les lignes de vie, mais il s'accroche, il fonce, sans penser au jugement des autres. Dans cet épisode, il nous parle d'échec, du regard des autres, de perception, de mentalisme, de comment gérer son temps et de l'envers du décor de son succès. Salut Fabien.
Salut Victoria.
Comment tu vas?
Ben ça va très bien, et toi?
Parfait, très okay. Bien aussi, je suis ravie d'être ici.
Dans ma villa avec piscine, parce que comme on est un podcast audio, on peut faire croire ce qu'on veut sur le lieu,
exactement.
C'est bien ça.
Exactement, une grande piscine, on a un écran plat à côté de nous.
C'est ça, j'aime bien parce que tu regardes vraiment, alors où est-ce qu'on pourrait le mettre cet écran plat?
Non, en fait c'est des casiers, casiers rouges. Écoute Fabien, je vais commencer par te poser une question à laquelle tu dois être bien rodé. Maintenant, depuis le temps que tu y réponds, c'est de te présenter de la manière dont tu souhaites, parce que quelques-uns et une de nos auditeurs ne doivent pas te connaître.
Bah oui, évidemment. enfin, je disais oui, évidemment, que des personnes ne me connaissent pas. C'était à ça que je répondais oui, évidemment. Je vais te dire pourquoi, parce que ça reste intéressant. C'est assez insupportable, mais ça part toujours d'une bonne intention quand quelqu'un dit « Eh, maintenant, un tel qu'on ne présente plus ». Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Et j'ai beaucoup de mal avec cette phrase parce que je me dis toujours, moi, quand j'entends ça de la part de quelqu'un que je connais pas, je me dis, si, présente-toi, moi, je te connais pas.
Bah oui.
Et donc, en gros, j'entends souvent cette phrase parce que tout cumulé, je suis suivi par 4 millions de personnes sur les réseaux. Et moi, j'ai fait le calcul, ça fait 5% de la population française. C'est pas énorme quand on dit ça comme ça. Donc oui, il y a besoin de se présenter.
Ouais.
Bonjour, je m'appelle Fabien Olicard, j'ai 38 ans. Depuis toujours, je suis passionné par le cerveau. J'ai décidé que mon métier, ce serait de faire de la scène, du spectacle d'humour qui mélange les sciences. Et au fur et à mesure, j'ai dérivé sur d'autres formats d'expression, comme la vidéo à partir de 2016 ou les livres à partir de 2017. Et donc, l'étiquette qu'on me colle le plus facilement, parce que c'est un mot fourre-tout, c'est le mentalisme. Mmh. Voilà.
On va revenir sur ce mot un petit peu barbare.
Qu'est-ce
pour
que
commencer, Fabien, j'aimerais essayer de comprendre ton parcours et l'origine de ta passion pour le cerveau, parce qu'elle n'a pas toujours été là, si j'ai bien compris. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler du petit garçon que tu étais?
Le petit. Alors, vers quel âge? Faut que tu me donnes un âge.
Alors, on n'a qu'à dire 7 ans. J'aime bien prendre 7 âges.
7 ans. Ah ouais, c'est déjà bien avancé pour moi, 7 ans. 7 ans. Donc, je suis en CE1. Donc ça fait 2 ans que je joue à des jeux bizarres comme les échecs ou des trucs comme ça. J'ai un grand frère et une grande sœur. quand je dis grand, c'est vraiment grand, c'est 7 et 8 ans d'écart avec moi, ce qui fait que ça me tire vers le haut dans mes occupations, parce que du coup, je veux faire comme eux, donc je vais à la bibliothèque comme eux, je veux faire les mêmes jeux de société qu'eux, etc. Je ne sais pas encore que je vais être passionné par la magie et par les sciences, ça, c'est pas encore arrivé. J'ai pas trop de copains ou de copines, mais j'ai aucun souci par contre de sociaux. C'est-à-dire qu'à l'école, moi dans la cour, je suis plutôt dans mon coin à lire des bouquins, mais tout se passe très bien avec les autres. Je suis plutôt bien aimé, tu vois. C'est plus un tempérament solitaire qu'exclu, on va dire. Et voilà, et chez moi, mes jeux, c'est d'avoir une toute petite table, une petite chaise et de faire un bureau et de travailler. Je joue à travailler. On ne sait pas trop pourquoi, donc je demande à ma mère de venir s'asseoir en face de moi du bureau pour qu'on travaille.
Travailler sur quoi ?
Ben, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais en fait, je crois que depuis toujours, si je remonte loin, donc déjà là, à cette époque-là, j'aimais bien le côté créer une structure et que cette structure produise des choses et d'agglomérer des gens qui vont travailler ensemble. Alors là, tu vas me dire que je vais vachement loin dans ma réflexion de 7 ans, mais n'empêche que c'est vrai, et que je pense que ça participe à mes facettes d'avoir toujours créé des systèmes. J'aime bien créer des systèmes. Voilà, et mes passions de l'époque, c'est vraiment lire, et puis quand j'ai le temps, je lis. Si.
Et ton rapport avec les autres jeunes de ton âge, il est comment ? Est-ce que tu es plutôt isolé ou hyper sociable ?
Non, plutôt isolé. En fait, un sociable isolé. Comme je te disais, j'étais pas exclu, mais j'étais pas très à l'aise en fait dans les groupes. C'est pas à mon aise. Moi, je suis plus à mon aise en un contre un ou en petit comité en tout cas. Donc tout ce qui est cours de récré, ça marche pas sur moi. Les soirées d'anniversaire, c'est une corvée. Mes parents font des pieds et des mains pour que je fasse un sport collectif. Mmh. Et dans mon petit village, il y avait le foot, on abandonne, le rugby, on abandonne, le basket, on abandonne, et puis je finis par faire de la natation tout seul, tu vois. Donc j'ai un tempérament, on va dire, qui a envie de découvrir des choses sans faire de concessions avec les autres, et j'ai rien contre les autres et les autres n'ont rien contre moi, donc ça se passe très bien quand on est ensemble, mais j'avance plus vite tout seul. Il me faudra des années pour comprendre qu'on avance plus loin ensemble, par contre.
Bah justement, on va un peu avancer dans les années. On est à la sortie du bac. Comment tu imagines ta vie, dans la vie des grands, à cet âge où on est souvent un petit peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire ?
Moi, je travaille déjà à cette époque. Je travaille depuis mes 14 ans, donc des petits jobs que je me crée, qui vont du dépannage informatique jusqu'à serveur dans le bar de mon petit bled, de manière complètement illégale, évidemment. et donc, à cette époque-là, je travaille déjà, mais quand je te dis je travaille, j'ai même été formateur BAFA, là, pour le coup, légalement, je forme les stagiaires pour le BAFA, etc. Donc, je sors du lycée avec une certitude, c'est que mes études, c'est terminé. Je ne vais pas reprendre les études, je veux travailler, je veux créer des choses, je veux apprendre ce que j'ai envie d'apprendre aussi. Et j'avais du mal à ne pas pouvoir faire des cours à la carte, ce qui aurait été une passion pour moi. Et en plus de ça, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie, mais je sais que je n'aurai pas un boulot fixe, que mes études ne vont pas me servir à me dire « voilà, mon goal, ça va être ça et je vais faire que ça ». Je sais que je veux suivre qu'une seule règle, et ça depuis toujours, c'est être content de faire ce que je fais. Donc, je te dis ça peut être de la poterie sur la plage, comme ça peut être travailler à l'usine, comme ça peut être monter une société. Il faut que je sois très animé le matin quand je me lève. Et dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai déjà, par exemple, vendu des nappes à ce moment-là, là, en sortie de lycée, sur les marchés, dans l'île de Ré, dans La Rochelle, sur une petite société que j'ai créée pour quelques mois. J'y vais en toile de tente et j'étais très heureux. Donc, en fait, c'est ce très heureux-là que je veux toujours garder. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et je chope un resto, par hasard, parce que je vais à une vente aux enchères. Et j'y vais pour une voiture et je repars avec un fonds de commerce, parce que ça coûte le même prix. Et me voilà avec un resto pour 2 ans et demi, à peu près, parce que je ne fais pas 3 saisons. Bon, complètement inattendu, j'étais pas fait pour la restauration, forcément, et tout. Mais ça marche bien et ça me plaît. Et je fais ça avec un pote. Et pourquoi on arrête au bout de 2 ans et demi ? Parce que ça ne nous plaît plus. En fait, c'est aussi bête que ça. Et c'est comme ça que je vais enchaîner les expériences professionnelles dans des domaines qui n'ont rien à voir, quoi.
Mais c'est intéressant parce que finalement, très jeune, Tu t'es dit, je veux faire des choses qui me rendent heureux, pas des choses qui vont faire plaisir à papa ou maman ou à mes copains et qui vont me permettre de cocher les cases. Tu
vois, ouais, ça a été très très dur quand moi j'ai pas eu mon bac parce que je suis pas allé au rattrapage. J'ai essayé de faire service minimum comme je travaillais en même temps. Je restais qu'une heure aux épreuves. J'avais fait mon petit calcul, je devais l'avoir tout pile. Et j'ai eu 9,86. Donc quand t'as un bon dossier, ça passe. Mais moi j'avais trop d'absence, donc ça passait pas. Mm-hmm. Et donc j'ai été inscrit au rattrapage et je suis pas allé à l'épreuve parce que je travaillais. Et ma mère l'a super mal vécu. C'est ma seule embrouille avec ma mère. C'était une guerre froide, c'est-à-dire on se parlait plus, on avait plus de contact. Ça l'avait en travers de la gorge. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui mes bouquins sont étudiés à la fac, donc tu vois, comme quoi. Je dis pas qu'il faut pas faire d'études, hein. N'extrapolez pas ma phrase, mais comme quoi c'est pas la fin en soi, d'une manière générale. Mais oui, la fin en soi, depuis le départ pour moi, c'est de pas agir sous la contrainte. C'est pour ça qu'il y a des cours où j'allais pas, ou des choses que. En fait, quand j'allais pas en cours, ma mère le savait, parce que j'étais à la maison, je faisais pas n'importe quoi, tu vois. C'est juste. Il faut que je sois animé, il faut que je sois motivé, il faut qu'il y ait un moteur derrière. J'ai un rapport au temps qui est très fort, et du coup, dès que j'ai le sentiment de perdre du temps, vraiment, je vais pas bien, quoi.
Et t'as jamais eu peur de l'échec en te lançant comme ça, un petit peu, en écoutant ce qui te fait vibrer, ce qui t'appelle ?
Je suis assez copain avec l'échec. C'est pour ça que je peux admettre de pas avoir le bac ou des choses comme ça. J'ai aucun problème sur l'échec parce que dans ma définition de l'échec, c'est un essai qui n'est pas encore concluant. Donc du coup, ça passe. C'est pas j'ai raté et je ne peux plus jamais recommencer. En fait, pour moi, la vie, c'est un jeu de Mario, tu vois. Et donc, t'as des trous, des obstacles, des machins et tout. Et donc, si t'es pas tombé dans le trou, tu peux pas savoir qu'il existe peut-être. Donc, il faut faire ça. Et j'en discutais avec un auteur qui s'appelle Bernard Werber, et dont j'adore le travail, qui est devenu un ami avec le temps. Ce qui m'a fait checker du poing mon enfant de quand j'étais au collège parce que je lisais ses livres à l'époque. Lui, il avait une super phrase. Il disait, l'échec pour moi, c'est j'avance et à chaque échec, je tombe. Mais quand je tombe, je recule pas. Juste, je suis tombé. Donc, j'ai perdu un peu de temps, mais je m'enlève et j'avance. Donc, quoi qu'il arrive, j'avance toujours. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. C'est, il faut vraiment mettre son ego de côté sur l'échec. L'échec, c'est la face d'une même pièce et de l'autre côté, on a l'apprentissage. Si on ne savait pas échouer, on ne pourrait pas apprendre. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre, donc j'ai aucun problème à apprendre, donc j'ai aucun problème à échouer. C'est pas très grave pour moi d'échouer.
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui aux jeunes qui ont envie d'oser, mais qui ont des barrières mentales ou quelles que soient
ces barrières ? En fait, l'une des barrières dont on m'a fait le plus part, c'est le rapport aux autres. Parce que bon, c'est mes parents, mes amis, ma famille, les autres, d'une manière générale. Et le grand secret, je vais vous le dire, c'est qu'ils s'en foutent et que d'ici quelques semaines, mois après une tentative, par exemple, ratée, personne s'en souvient. Et je vais vous donner un exemple concret. J'ai lancé en 2016 un magazine gratuit dans Paris qui s'appelait Humour Magazine. Je rêvais de lancer un magazine. Et j'ai embarqué quelqu'un avec moi dans cette aventure. Et au bout de 3 mois, on ne trouve pas les annonceurs, le système de dispatch n'est pas bon, il y a plein de choses qui ne vont pas. En même temps, je me suis improvisé éditeur de magazine, comme je me suis improvisé tout dans ma vie. Tu vois. Et ça ne marche tellement pas que je mets en sommeil et je me dis, je vais prendre 3-4 mois pour réfléchir et peut-être je ne rouvrirai pas en fait. Et c'est ce qui s'est passé, je n'ai pas rouvert. Et donc la personne qui était en duo avec moi sur cette aventure était catastrophée. De qu'est-ce qu'ils vont penser le métier. En plus, Humour Magazine, donc, on travaillait aussi avec les théâtres. Les théâtres ont joué dans les théâtres tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais ils vont se dire que c'est nul, et tant de bruit pour rien, et nanani, et nanana. L'été est passé, je pense qu'au mois de septembre, on serait allé voir n'importe qui. On aurait dit, tu te souviens d'Humour Magazine? Il aurait fallu que la personne fasse attends, ça me dit quelque chose, parce que les gens oublient ce qui les concerne pas. Donc, vous cassez pas la tête sur le rapport que les autres font avec ce que vous faites, parce que d'une part c'est votre vie, donc il n'y a que vous qui êtes impliqué en fait, hein, les autres sont figurants de ce que vous ressentez intérieurement, et d'autre part, vraiment, dans le temps, ils vont pas s'en souvenir. Donc ils vont peut-être émettre un jugement de valeur tout de suite, un peu franc, un peu direct, un peu cash, mais ça, c'est leur problème à eux, ça ne représente pas une vérité profonde en fait, c'est leur affaire à eux, c'est leur sentiment, et souvent, les réflexions d'ailleurs désobligeantes sur ce que vous ferez, ce sont des choses qui sont en lien avec eux-mêmes. C'est-à-dire que L'autre fois, j'entendais des gens parler d'une entrepreneuse qui est présente aussi sur le podcast, qui disait ouais, nanani, elle si, nanana, si, nanana, en plus elle fait ci, elle fait ça. Et moi, c'est une personne, pour ne pas la citer, que je trouve très. Elle est assez jeune, elle est très ambitieuse, très culottée, et je me dis au contraire, putain, ça fait du bien de voir ça. Putain, elle les met sur la table, comme on dit, et elle y va, quoi, elle ose. Et quand j'entendais des critiques sur elle, je me disais, hey, ça, c'est parce que vous n'osez pas. Et du coup, c'est plus simple de taper sur l'autre personne qui fait ce que vous n'osez pas faire pour vous rassurer que ce n'est pas grave que vous ne le fassiez pas. Donc, vous voyez que les réflexions que vous feront les autres, en plus sur ce que vous faites ou sur votre manière d'oser, quand c'est des jugements négatifs, en vrai, c'est un problème que eux ont à régler. C'est même pas lié à vous, quoi.
C'est Eckhart Tolle qui disait qu'on vit chacun dans notre propre film.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est,
oui.
C'est totalement vrai.
Oui, oui, c'est pour ça que non, c'est dans le pouvoir du moment présent qui
c'est
ça.
Ça.
Mmh. Et c'est vrai. En fait, on dit souvent le présent, c'est le seul moment que tu vis maintenant. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais ça va plus loin avec ce que dit Eckhart Tolle. C'est il y a que toi qui le vis aussi ce présent-là. Donc en vrai, tu fais vraiment ton film. Sauf qu'au lieu d'être que l'acteur, tu es aussi le réalisateur. Donc tu peux décider de tout dans ton film. Tu es le scénariste et le réalisateur. Le scénariste, donc tu l'écris au fur et à mesure, tu prends les décisions que tu veux. Et tu es le réalisateur, c'est-à-dire que tu peux même influencer tes perceptions. En gros, si tu es dehors sous la pluie, tu peux te dire « il pleut », perception neutre, ou tu peux te dire « putain, il pleut, je suis mouillé ». On est plus sur un film introspectif, ou « il pleut, je suis mouillé, putain, fais chier, j'ai jamais de chance ». Et là, c'est toi qui as créé ton propre drama. Tu peux aussi être mort de rire sous la pluie. Donc, effectivement, on est tous dans son film, on est le scénariste, l'auteur, l'acteur, le réalisateur, on est tout, quoi.
Aujourd'hui, tu es mentaliste.
Tout à fait, madame.
Et c'est pas le genre de métier qu'on a l'habitude d'entendre quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Qu'est-ce que tu fais ? Un mentaliste.
Et oui, et moi, la première, quand j'ai entendu ce mot pour la première fois, j'ai pas compris grand-chose, à part que c'est en opposition au matérialisme.
Oui, de fait.
Et je crois qu'il y a même pas de réelle définition en France. Donc je vais te
c'est
laisser
ça.
Présenter.
Même pas dans le monde, d'ailleurs.
Ah, dans le monde non plus. Okay.
Il n'y a jamais une définition au sens consensus, figé. Mentalisme, c'est ça. Ça a toujours été un mot fourre-tout et tout le monde se l'a attribué suivant les époques et les cultures comme il le voulait parce qu'on comprend juste que ça se passe un peu avec ce qu'il y a dans la tête. Bon, c'est ça hein, qu'on entend un petit peu. Donc pendant un temps, les médiums se faisaient appeler les mentalistes, par exemple. Et pourtant, c'est un mot qu'on va retrouver dans d'autres mots. Dans comportementaliste, par exemple, il y est. Et là, comportementaliste, il y a une définition, c'est un métier, etc. Donc mentaliste, c'est un mot fourre-tout. Ce qui fait que d'ailleurs, à mon sens, c'est même pas un métier, tu vois. Le métier, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton mentalisme. Moi, j'ai trois métiers, on va dire, principaux, ou quatre. Je suis conférencier, je suis artiste sur scène pour des spectacles, je suis vidéaste quand je fais des vidéos, je suis auteur quand j'écris des livres. Ça, c'est des métiers. Et mentaliste, ça va être ma passion, en fait, qui est derrière. Et pour moi, du coup, la définition du mentalisme, c'est deux choses qui sont très parallèles. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. C'est à la fois utiliser son cerveau pour bluffer les autres, et ça c'est une branche de l'illusionnisme en fait, je vais donner l'illusion que je lis dans les pensées, alors que j'utilise d'autres astuces en fait pour déduire la pensée de la personne. Donc ça c'est pour la partie un peu bluff show, et puis l'autre partie c'est comment mieux utiliser son cerveau en se connaissant soi-même, comment mieux communiquer en connaissant le cerveau des autres et donc le sien aussi. Donc c'est un mélange de psychologie, d'influence, de mémoire et puis d'illusionnisme aussi. Voilà, c'est ce mix-là. Donc ça fait un mot barbare, mais en même temps il est quand même pratique parce qu'on y fout ce qu'on veut dedans. Et quand tu dis à quelqu'un « je suis mentaliste », il dit « je sais pas ce que c'est ». Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir vite fait compris à peu près de quoi ça parle. C'est assez rigolo. Hein, mais je crois que toute ma vie, on me dira c'est quoi le mentalisme. Avant, quand je rentrais sur scène, je disais cette vanne. Je disais, il y a quelques années, quand j'arrivais sur scène, je disais que j'étais mentaliste et personne ne savait ce que c'était. Alors que depuis qu'il y a eu la série The Mentalist, bah, personne ne sait ce que c'est. Ça n'a rien changé. Et c'est vrai en soi. C'est marrant qu'il y ait même une série qui porte ce nom. Et pourtant, on n'arrive toujours pas bien à déterminer ce qu'on est. Ben, je pense que le vrai flou qui règne, c'est mentaliste, c'est un métier. Et en fait, dès qu'on comprend que ce n'est pas un métier, on se dit « ah oui, d'accord, bon, t'es passionné par le cerveau, quoi. »
Comment tu es tombé dans cet univers-là ? J'imagine que quand tu vendais des nappes et que tu vivais dans une tente, tu n'avais peut-être pas déjà cet attrait pour le mentalisme.
Alors,
qu'est-ce qui t'a amené à ça ?
À fond, en fait.
Ah ouais.
En gros, ça commence vraiment, le vrai point de départ, il est à 8 ans. Après, maintenant, je le situe un peu avant, mais dans mon ADN, le vrai gène que j'ai, c'est la curiosité absolue. Ce qui est un avantage et un inconvénient, parce que du coup, il y a plein de domaines où je suis moyen, je suis l'éternel moyen, parce que je veux m'intéresser à tout. Et quand tu t'intéresses à tout, tu ne te spécialises pas, tu vois.
Je comprends tout à fait.
Et à 8 ans, je tombe sur un bouquin de magie dans le vide-grenier de mon village, donc c'est un tout petit village hein, où j'habitais, et qui s'appelle Cours Magica de Robert Venoz. Le livre à 10 francs, j'ai 10 francs, je l'achète. Et c'est un livre pour les pros, quoi, à la base, quoi, avec des mains dessinées, tout ça, machin. Bon. Et le dernier chapitre s'appelle « Il n'y a pas de truc ». Et c'est des trucs de mentalisme, donc des trucs d'influence, pour faire choisir la carte qu'on veut, en utilisant certains mots, tout ça. Je trouve ça passionnant. Et du coup, je sais que c'est là mon point de départ. Parce que du coup, ça va m'emmener à vouloir mieux comprendre pourquoi telle technique marche ou quoi. Donc, aller à la bibliothèque de mon village, prendre des livres de psychologie. Il n'y avait pas vraiment de neurosciences à l'époque. Et puis, en même temps, quand tu mets le nez dans ces rayons-là, le livre d'à côté, c'est un autre livre qui va parler de ceci, cela. Donc, en fait, ça m'ouvre un univers. Et tout ça, en fait, ça m'ouvre à l'univers de ma passion. Et sauf que le mot mentaliste et mentalisme, je vais le découvrir bien plus tard, à l'adolescence. Mais toute cette période-là, c'en est déjà, quoi.
Et comment tout s'est accéléré dans ce milieu-là pour toi ?
En gros, en quittant le resto, je me dis, je vais faire quoi maintenant ? Je commence à faire des prestations. Alors, je fais deux choses. J'ouvre des anniversaires à domicile en Charente-Maritime,
okay.
Qui est un truc qui existait déjà à Paris, mais pas en province. Et en gros, je vais gérer l'anniversaire d'un enfant, faire un spectacle, de machin. Donc là, je faisais plus de la magie et tout. Donc ça me confronte au public. Et en même temps, je donne des conférences en France et à l'étranger sur le cerveau, etc. Dans ces conférences-là, pour dynamiser, je fais des démos. Donc j'appelle pas encore ça du spectacle parce qu'il n'y a pas de texte et de mise en scène, j'improvise tout. Mais ça en est un petit peu dans la forme quand même. Et donc, je fais ça plutôt en France, mais quand même pas mal à l'étranger. Et du coup, ça m'ouvre des opportunités de faire des démonstrations de mentalisme, là, plus à l'étranger qu'en France. Et j'adore ça, public adulte, j'adore les faire marrer. Je me rends compte que je sais pas ne pas faire rire. Donc, en quelques années, ça se fait aussi un peu tout seul. En fait, tu vois que le point commun à chaque fois, c'est que j'ai jamais pris de décision. Je ne peux pas décider de vendre des nappes, je ne peux pas décider d'avoir un resto, je ne peux pas décider de monter sur scène. C'est juste, il y a des possibles et je me dis, comme je n'ai pas de but très précis, d'objectif très précis, je suis très ouvert à la possibilité incongrue. Je la vois parce que je ne suis pas omnibulé par ça. Donc, ok, vas-y, on tente. Et si ça ne marche pas ou que ça ne me plaît pas, je pars sur une autre branche. Et puis, si ça me plaît, cette branche-là devient ma ligne de vie. Mais elle n'a pas été anticipée, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça se fait un petit peu tout seul, un peu naturellement. Vraiment, on va dire, à partir de 2006, tu vois. 2005-2006. Et puis, jusqu'en 2011, je suis plus dans ce qu'on appelle l'événementiel, le B2B, des choses comme ça. Et 2011, je décide de revenir m'installer vraiment en France, à Paris. Et j'ai eu, par un mec que j'ai rencontré à Yalta en Ukraine, le contact d'un gars qui a un tout petit théâtre à Paris, etc. Et je me dis, vas-y, je vais essayer de faire ça, du mentalisme et de l'humour dans les théâtres. Ils veulent pas de moi, je leur fais une démo, ils veulent bien de moi. En gros, ils m'ont dit non 4 fois. Donc tu vois, quand on parle d'échec, moi, j'entends pas le mot non. S'il existe assez peu dans ma vie, j'entends convainc-moi, explique-moi mieux, donne-moi envie, tu vois. Mais pour moi, non. Ça ne veut pas nécessairement... Je préfère qu'on me dise non et le prendre comme je le prends plutôt qu'on me dise oui pour se débarrasser de moi, mais c'est un oui mou. Mmh. C'est-à-dire, en fait, rien ne se passera derrière. Avec un non, je sais que je peux dire « Ah, ok, je comprends que tu n'es pas envie, mais quelle en est la cause ?» Et eux, en l'occurrence, m'avaient dit « Nous, on a une ligne éditoriale qui est humour, donc one-man show ou pièce de théâtre. » J'ai fait « Ah, oui, je comprends. » J'ai réécrit mon passage. Je les ai rappelés en disant « Est-ce que je peux... » venir vous faire une démo de 5 minutes, il me fait non. Je dis oui, parce que j'imagine que vous n'avez pas le temps. Il fait non, mais parce que ça colle pas. Je fais alors là, détrompez-vous, je pense que ça colle. Mais du coup, mettons-nous d'accord le temps d'un café. Et tu vois, c'est pas un truc de forceur, c'est un truc de régler le problème en fait. C'est le non sec n'existe pas. Donc, il me donne les coordonnées de ce théâtre et je me mets à jouer là-bas. C'est pas fou ce que je fais, mais pourtant ça plaît et ça remplit bien parce que je crois qu'en fait c'était juste atypique. Comme discipline, tu vois, le mentaliste, c'est un peu comme quand je suis arrivé sur YouTube, c'était atypique. Mmh. Donc, en fait, on parle un peu de toi. Et j'ai adoré ça, ça m'a plu. Et du coup, je ne savais pas que j'allais devenir un mec de théâtre qui allait jouer à l'Olympia un jour, mais c'est comme ça que je le déclenche, pareil, sans ligne de vie, quoi.
Et quand tu commences tes premiers spectacles, est-ce que tu es déjà présent sur YouTube ou pas?
Non, 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 ça c'est en 2011 et YouTube arrivera en 2016,
Ok.
5 ans plus tard. Et moi j'ai de la chance, c'était l'avant YouTube. En fait, j'aurais pu ne jamais me lancer sur YouTube et suivre la carrière des artistes comme mes potes, quoi, comme les humoristes. C'est-à-dire que je faisais déjà des tournées dans toutes les villes, je remplissais des théâtres de 800 places, je vivais mon rêve. Vraiment, on veut tous en être là, tu vois. Et je me lance sur YouTube pour non pas avoir du public en plus, parce que là, ce serait regarder la réussite rétrospective, donc c'est biaisé. En réalité, c'est parce que j'avais fait deux choses. Une interview au JT de France 2 où j'étais catastrophique. Et je me disais, je sais vraiment pas parler devant une caméra, quoi. Donc je me dis, il faut que je m'habitue à la
Est-ce que
caméra.
vraiment, dans ton propre film, tu trouvais que tu
Ah
étais
ouais.
catastrophique ou est-ce que tout le monde t'a dit, ah, tu
Non,
étais
en fait,
horrible?
ce que j'ai trouvé catastrophique chez moi, c'est que je n'étais plus naturel, je m'étais perdu. En gros, je collais à l'énergie de la personne.
D'accord.
Si le présentateur avait été marrant et speed, j'aurais été marrant et speed. Comme là, il était un peu mou et solennel, j'étais mou et solennel. Et j'étais, ah, mais tu n'as pas de personnalité, Fabien. Qu'est-ce qui se passe, tu
Tu
vois?
t'adaptais en
Ouais.
fonction de ton
Ouais,
interlocuteur.
ouais. Comme j'ai un côté caméléon un peu naturel, en plus, ben là, ça, pour une fois, ça me desservait, quoi. Donc je me dis, il faut que tu t'habitues à la caméra. Et j'étais en train d'écrire mon troisième spectacle. Et je m'étais dit, il me faudrait un défi créatif. Sinon, je vais écrire une énième variante du spectacle précédent, en fait. Et je me dis, ben, le meilleur défi créatif, c'est d'écrire tous les jours. Et là, ça se mixe avec l'autre idée de s'habituer à la caméra. Et je me dis, je vais faire une vidéo par jour pendant un an. Et quand je me lance des défis, je les tiens. Ça, j'ai trop d'ego là pour le coup envers moi-même pour ne pas le faire. Donc je me lance là-dedans, je sais pas monter, je sais rien faire. Et je ne comprends même pas encore à l'époque que YouTube, il y a le système de chaîne, d'abonnement, tout ça. C'est pas si clair, quoi, tu vois. Pour moi, YouTube, ça se résume à une vidéo de Norman ou de Cyprien en mangeant mon sandwich le midi, tu vois. Donc je me lance là-dessus. Au bout de, sans te mentir, 4-5 jours, je comprends ce qu'est l'écosystème YouTube et j'adore ça. Parce qu'en plus, je découvre un truc qui m'est alors inconnu. Quand tu fais un spectacle, tu mets un an à l'écrire, 6 mois à le répéter, et tu le peaufines, et au bout d'un an et demi, 2 ans, tu vas commencer à le présenter sur scène, et ce sera à peu près le même pendant 2, 3 ans.
Ok.
Donc c'est un circuit créatif assez lent en fait, en réalité, mais très valorisant. YouTube, je pouvais avoir une idée le matin, l'écrire la journée, la tourner le lendemain, la publier le surlendemain, et elle existait direct. Et ça, pour un artiste de scène, être capable de faire une création en 2, 3 jours, c'est fou. Tu vois, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on me dit tu préfères la scène ou YouTube, je me mets arrêter de vouloir me faire choisir. Pourquoi? Les deux se complètent de fou, quoi. Ils sont trop bien à vivre, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'en 2016, je lance la chaîne en me disant de toute manière, il se passera pas grand-chose. Et il s'est passé à une accélération au cours de l'année, exponentielle. Je pense que j'étais la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Que l'algorithme peut-être favorisait ceux qui faisaient du contenu très régulier, donc j'étais en plein dedans avec une vidéo par jour. Donc le mix de tout ça, ça a aligné les planètes, qui fait qu'à la fin de l'année, j'avais 250 000 abonnés et que la chaîne était lancée. Et que le truc qui était hyper vertueux, c'est que les personnes qui m'ont découvert sur YouTube ne me connaissaient pas sur scène, donc c'était un nouveau public. Parce que ça vaut le coup de le préciser aussi pour vous. Quand je commence quelque chose dans un autre domaine, je repars de zéro. J'ai conscience d'être son père. Donc je pars au bas de l'échelle. Donc je suis pas arrivé sur YouTube en mode, hey, moi il y a déjà 50 000 spectateurs qui sont venus au spectacle. Je fais de la télé, je fais du machin. Je m'appelle Fabien Licard. Vous me connaissez pas du tout. J'ai commencé en mode, je commence quoi. Je suis son père ici. Donc je vais bien me calmer, tu vois. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai absorbé les codes d'Internet beaucoup plus vite et que ça s'est très bien passé parce qu'on a vu que je venais pas prendre quelque chose. Et quand je vois des potes humoristes comme, enfin des potes, lui c'est pas un pote, je le connais pas, mais comme Kev Adams ou d'autres personnes qui ont essayé de se lancer sur YouTube un peu en force et qui ont arrêté au bout de 3 mois parce que ça marchait pas et qu'ils étaient déçus, je dis bah oui, mais non, c'est pas la même chose quoi, on n'est pas au même endroit quoi, t'es pas dans le même pays entre guillemets, c'est plus les mêmes codes et faut pas venir pour prendre, tu viens d'abord pour donner. Il faut jamais oublier pourquoi tu as envie de faire des vidéos. Et si tu as envie de faire des vidéos pour avoir des abonnés, c'est dai. Tu vois, ne fais surtout pas de vidéos parce que tu vas être déçu, quoi. Si tu fais des vidéos parce que tu avais envie de faire un truc qui te motivait ou tu avais envie de partager quelque chose qui te motivait, bah c'est génial. Moi, je me souviens que quand je faisais 300 vues, c'était le goal dans ma tête. J'étais là, oh yeah, elle a bien tourné. Parce que dans ma tête, je me disais 300 vues pour la vidéo, c'est trois fois le théâtre dans lequel je jouais à l'époque, qui était le Point Virgule à Paris, qui est un 110 places. Tu vois, je rationalisais comme ça. Je me disais, c'est fou, il y a trois fois l'équivalent du théâtre qui a vu la vidéo qui est sortie ce matin. C'est incroyable.
Pour les écoutes du podcast, ça me fait ça aussi.
Ah oui,
puis
bah
je
oui.
Je me disais, mais attends, mais là, ça voudrait dire que si tu fais une conférence, c'est toutes ces personnes-là qui sont en face de toi, c'est énorme.
Ben oui, c'est ça, ouais. Ah ben oui, moi, il n'y a pas pire que quelqu'un qui me dit, ah, la vidéo, c'est nul, là, je fais 1000 vues, ça ne marche pas. 1000 vues, frère, c'est la moitié de l'Olympia. Tu te rends pas compte de ce que c'est, 1000 personnes.
Ouais.
On oublie que les chiffres égalent vraiment des personnes. Il faut les visualiser en termes de personnes, quoi.
Mais surtout, aujourd'hui, où on voit des chiffres colossaux partout sur Internet, où on a tendance à toujours en avoir plus. Une fois qu'on a 1000, on en veut 3000, puis 4000, puis on voit celui qui en a 11000. Et finalement, on se rend plus compte que 1000, c'est déjà juste énorme, quoi.
Ouais, et puis c'est bien aussi de garder, d'une manière générale, dans sa vie, le souvenir de la joie quand tu accomplis quelque chose. Parce que comme tu dis, en fait, tu vas avoir 100 000 abonnés. Moi, le jour où je les ai eu, les 100 000, j'étais là, oh, c'est incroyable en vrai, quoi. Tu vois, il y avait le trophée YouTube, il y avait tout. Et ce sentiment-là, je m'en souviens précisément. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'étais à 180 000, en me disant, ah, ils n'arrivent pas, les 200 000. Je me disais, hey, t'as 80 000 de plus que le jour où t'as fait Yahoo, c'est fait. Tu vois, il y a des gens qui sont intéressés par mon contenu. Parce que quand j'avais eu 100 000, je m'étais dit, là, c'est bon, toute ma vie, je peux faire des vidéos. Il y aura au moins peut-être 10% de ces 100 000-là qui les regarderont toujours. Et c'est quand même fou, quoi, 10 000 personnes qui seront intéressées tout le temps par mes vidéos. Quoi. Donc, c'est de se souvenir de la joie qu'on a quand on passe une étape. Plutôt que de voir toujours l'étape d'après et de l'attendre. Arrêtons d'attendre et constatons un peu.
C'est hyper important. Ça m'intéresse de savoir comment tu gérais ton temps à cette période où tu as décidé de lancer une vidéo par jour, parce que c'est colossal et tu avais tes autres activités en parallèle. Comment tu as fait pour gratter un petit peu de temps dans tes journées?
En fait, ça s'est greffé en plus, exactement. Ouais. Je n'ai pas supprimé du temps, donc il y a eu plusieurs choses. La première, c'était de me lever un peu plus tôt. Et de me coucher un peu plus tard, sans gratter de ouf, mais tu peux vite trouver une heure et demie comme ça. La deuxième chose, ça a été d'arrêter de dire oui à tout. Donc tous les trucs, en fait, que j'avais pas envie de faire et que je faisais des fois par contrainte, par obligation, par la peur de vexer ou de dire non, d'un coup tu coupes. Et ça fait du ménage et c'est bien. Et puis ensuite, moins de téléphone. Moins de téléphone. Que d'ailleurs, j'ai gardé le pli... j'ai vraiment gardé le pli pour toujours de ça. Donc mon téléphone, je le prends quand j'en ai besoin et jamais plus. Et je vais te le faire constater. Voilà, ça c'est mon temps d'écran, ma moyenne quotidienne.
Oh, ok.
Voilà, donc tu vois, moins d'une heure par jour. Quoi.
40 minutes, c'est juste. Ok, ça me paraît vraiment pas beaucoup.
Oui, mais pourtant ça passe. En fait, je me prive pas, par contre. Vraiment, il y a même des journées, ma moyenne elle est à 40 minutes en ce moment, mais je peux passer une journée à 2 heures sur mon téléphone. Ouais. Je vais pas me dire, oh putain, Fabien, tu vois, je me prive pas. Juste, si on prend l'exemple d'Insta, Instagram, j'y vais rarement plus de 2 fois par jour. Mais en même temps, pourquoi faire?
Oui.
Tu vois, j'y vais si je veux vraiment te chiller dessus ou si j'ai du contenu à produire, mais point, je vais pas y aller par réflexe. Et ça, j'avais déjà ce truc-là avant. Mais quand j'ai créé les vidéos en 2016 et qu'il a fallu trouver du temps, ça a été le premier truc de « Ok, il n'y a plus des moments de je chill sur mon téléphone sans rien, sans but, tu vois ?» Et je pense que j'ai bien récupéré 3-4 heures par jour comme ça, quoi, tu vois. C'est assez hallucinant, le temps qu'on a. Donc en fait, d'un coup, entre l'heure et demie de sommeil en moins, les 4 heures de téléphone et peut-être une heure par jour de choses que tu n'as pas envie de faire et que tu dis oui par habitude, tu récupères 5-6 heures dans ta journée, tu as largement le temps de faire une petite vidéo de 5 minutes, quoi.
Est-ce que ton rapport aux autres, il a changé depuis que tu comprends le fonctionnement humain de la conscience? Est-ce que tu peux avoir quelqu'un en face de toi et te dire « Ah oui, là, elle vient de faire cette expression-là, ça veut dire qu'elle pense ça ou qu'elle réagit comme ça. »
Pas tant. Déjà, parce qu'il n'y a pas eu un avant-après, comme tout ça a été progressif au cours de ma vie. Et ensuite, parce que, je ne suis pas dans l'analyse, il faudrait vraiment que je sois le mec bizarre qui ne te parle pas trop, parce qu'il faudrait trop que j'observe et que je réfléchisse en même temps. Donc, non, pas trop. Ça fait, par contre, changer le regard des autres vis-à-vis de toi. C'est-à-dire qu'ils se disent « Oh putain, non, il va... si je mytho, il va le voir tout de suite », ce qui n'est pas forcément vrai. Mais du coup, c'est drôle parce que les gens se mettent des barrières eux-mêmes. Et je me souviens de la mère d'une amie qui m'aimait pas et j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, là, je me suis mis à l'observer et j'ai compris qu'elle avait un truc à cacher. Je pense un secret familial, je ne sais pas lequel, hein, mais elle avait quelque chose qu'elle cachait. Et du coup, ça l'a stressé que je sois là parce que pour elle, je pouvais lire dans sa tête, quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi. Donc ça, c'est marrant parce que je te dis, c'est pas tant moi, mon comportement, que ça fait changer, c'est plus celui des autres, en fait.
D'accord, c'est intéressant. Fabien, quel conseil tu voudrais partager aux jeunes...
Je sais pas pourquoi.
Fabien,
dis-moi.
Il a dit.
Oui.
Eh bien, écoute, Fabien, quel conseil tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? Des conseils généraux sur la vie, des conseils que toi, peut-être, tu aurais aimé recevoir quand tu avais 20 ans ?
Alors, mon vrai conseil, mais vraiment, parce que moi, ça m'a transformé ma vie, cette phrase, c'est « un vaut mieux que zéro ». Et vraiment, tout par-delà, ça s'applique à tous les domaines, c'est-à-dire que faire une vue, c'est mieux que faire zéro vue. Faire une vidéo, c'est mieux que d'en faire zéro. Quand j'écris un livre, il y a des jours où j'ai pas le temps d'écrire, j'écris peut-être deux phrases, c'est mieux que zéro. C'est bon pour tout, 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 tout. Un, c'est toujours mieux que zéro. Donc, les phrases, non, mais ça vaut pas le coup, deux, trois petits points, ça n'existe pas chez moi. Ça vaut toujours le coup. C'est toujours mieux que rien. Et si vous l'appliquez réellement, mais dans le sens, si vous comprenez l'essence de ça, ça peut vraiment vous faire, vous libérer, en fait, d'un poids de... parce que le 1 vaut mieux que 0, ça veut dire que, encore une fois, on n'est pas sur le résultat, réussite, échec, même si c'est pour non, mais là j'ai pas le temps d'aller voir mon pote parce que j'ai qu'une demi-heure et on va se voir que 20 minutes au final, si, c'est mieux que 0. Tu vois, t'es pas obligé d'aboutir à des choses incroyables à chaque fois. Et du coup, le deuxième truc, c'est aussi prendre le temps de toujours regarder ce qui s'est bien passé. Parce que notre cerveau, il est fait pour détecter les problèmes et pour les voir et pour ne pas les reproduire, pour se protéger. Et c'est comme ça qu'on n'est pas mort à l'époque préhistorique, tu vois, parce qu'il gardait que ça en tête. Aujourd'hui, on n'a plus tant besoin de ça. Donc, il faut aussi s'obliger à regarder qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui, de quoi je suis fier dans ma journée, dans mon trimestre, dans mon année, tu vois, de la même manière. Je vais te le faire voir à toi qui est là, et puis vous le verrez pas, c'est tant pis pour vous. Mais comme je fais pas mal de choses, je vais te faire voir celui qui est en pro. Je tiens un dossier, tuc, 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 voilà. Ça, c'est tous les trucs cool que je fais chaque année. Et je me dis, ça, faudrait que je m'en souvienne, parce que c'était un peu incroyable.
Donc à la fin de chaque année, tu te fais ta petite liste,
ouais,
de choses
à accomplir, tu vois. Là, c'est la partie boulot, tu vois, en 2015, donc c'est avant YouTube, j'ai été programmé au grand point virgule, c'était un peu incroyable dans ma tête, j'avais créé un plateau. Regarde, première production autonome dans une grande salle, donc c'était à La Rochelle, dans un 900 places, j'ai tout fait moi-même, j'ai tout programmé, j'ai lu le théâtre et tout. Là, je m'en souviens parce que c'est écrit là, tu vois, je me souviens que j'ai joué à La Rochelle et que j'ai produit ça, mais je me souvenais plus à quel point ça avait été aussi incroyable en 2015. Avant 2015, je n'avais jamais fait ça de ma vie, louer une salle à mes frais, prendre le risque et le faire. Et là, je l'ai fait ce jour-là. Donc, tu vois, c'est important de noter vos petites fiertés, ces trucs cool qui ont été réalisés dans n'importe quel domaine, dans la vie perso, dans la vie pro, dans la vie étudiante, parce que ça compte, en fait. N'oubliez pas que ça compte.
Moi, j'essaie de faire ça à chaque fin de mois.
Ouais,
chaque fin de mois, je fais le bilan, je me dis, mais qu'est-ce que tu as accompli ce mois-ci ? Et je fais la petite liste de toutes les choses, soit nouvelles, dont je suis fière, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est des fiertés personnelles. Ouais. C'est pas forcément un truc que si tu disais à tes potes ou à tes parents que t'as fait ça, ils feraient « waouh ». C'est juste, c'est toi, c'est dans ton sentiment vis-à-vis de toi. Ça t'a fait plaisir, ça t'a fait kiffer. Ça n'a pas besoin d'être brillant, en fait, quoi.
Non, ça peut juste être « j'ai pris le temps pour aller faire une balade en forêt ».
Oui, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelle émotion ça t'a procuré et tout. Et tu dis « ah là, c'est bien, j'ai pris le temps, j'ai fait ma balade, là, je suis fier de moi ». Ouais, c'est ça.
Bah écoute, à quelle période de ta vie tu t'es senti le plus fier de toi ?
Je pense que c'est à chaque instant.
C'est beau ça.
Ouais. Le plus fier de moi, parce que je me sens pas forcément fier, mais je sais que je fais toujours au mieux. Je fais toujours au mieux dans la vie. Donc des fois, le mieux, c'est pas le bien. Hein. J'arrive pas toujours à faire bien, mais je fais au mieux. Et tant que je ferai au mieux, je n'aurai pas honte de moi. Donc si j'ai pas honte de moi, c'est que je suis fier de moi. Tu vois, je le prends comme ça. Je détaille un peu. Mais non, il n'y a pas... C'est à chaque instant. Tant que je ferai au mieux, je continuerai d'être fier.
Et le plus heureux ? Est-ce qu'il y a une période particulière où tu t'es senti particulièrement bien?
Bah maintenant aussi.
Ok.
Ouais. Le maintenant, c'est. Je me suis toujours senti heureux dans le fond, mais dans le sens de neutralité, dans un peu le stoïcisme, tu vois. Et puis maintenant, les choses sont tellement équilibrées dans ma vie, j'ai la chance de faire ce que je veux d'une manière générale, dans le pro comme dans le perso, que ce serait mentir de dire que c'est pas maintenant. Après, il y a des instants heureux, évidemment, hein, quand j'habitais avec mes parents. J'étais très heureux de ce que je faisais avec ma mère, par exemple, les balades, les trucs comme ça, mais là c'est bien, on n'est pas malheureux.
Merveilleux. Écoute Fabien, est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette interview?
Le mot de la fin, c'est sûrement que tous les jours vous vous réveillez, chers amis qui nous écoutez, avec 1440 minutes devant vous, et vous les aurez jusqu'à un certain moment et on ne saura jamais quand. Donc 1440 minutes, elles peuvent pas s'économiser. Et le temps étant lié à de l'énergie, ça ne dépend que de vous de savoir ce que vous voulez faire de ça, en termes d'émotion, en termes de productivité, en termes d'oisiveté, peu importe. Mais soyez bien en accord, parce que c'est une grande richesse en fait d'avoir 1440 minutes par jour. Il faut juste décider quoi en faire plutôt que de laisser les autres et les choses décider à notre place. Voilà.
C'est génial. Clap de fin. Merci beaucoup Fabien.
Merci.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.